Bien, Père éternel, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut prendre ensemble à étudier ta parole. Quel sujet, Seigneur, glorieux que le sujet de l'adoration. Et quelle lettre glorieuse que celle de la lettre aux Hébreux. Seigneur Jésus, c'est peut-être la lettre par excellence pour saisir ta grandeur, saisir ta majesté, saisir même ta divinité, Christ. On te demande, Seigneur, de nous faire grandir en toi, de nous faire grandir comme adorateurs, Seigneur, de nous aider à comprendre ce que tu désires recevoir de nous comme adoration, Seigneur. Et Père, on te confesse qu'on est souvent distrait. Distrait par non les activités, mais les soucis de la vie. Alors, fais-nous grandir, Seigneur, viens te glorifier ce matin, puis aide-moi à enseigner conformément à ta parole, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, on est dans le cours « En esprit et en vérité ». Soit dit en passant, ce cours-là est complètement construit à partir d'un livre qui a exactement le même titre, qui est, je crois, dans la série Biblical New Testament Studies, mais c'est en français. Je n'ai pas le titre ici en français, mais si vous cherchez en esprit en vérité sur le site de publication chrétienne, vous allez trouver le livre. C'est excellent. C'est pas une plaquette, c'est un livre, mais c'est peut-être 250, 230 pages environ. Ça se lit très bien. Si vous dites « OK, c'est intéressant, mais je n'arriverai pas à résumer ce qu'on a vu », ça sera une bonne lecture pour vous à faire. C'est très enrichissant. On est à la leçon 8. Ce matin, on va compléter le survol de la lettre aux Hébreux. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, je suis souvent confus dans les dates, ça devrait être notre dernier dimanche pour les cours bibliques parce que le dimanche suivant est une matinée missionnaire. Et donc, le dimanche suivant, on va voir le témoignage de conversion, d'appel au ministère de Jonathan Bédard, notre stagiaire. Ça devrait être super intéressant. Donc, pensez déjà à inviter vos enfants, à inviter des jeunes. Parce qu'on a un jeune homme, mais soyez nombreux aussi. Et la semaine prochaine, donc, on termine avec l'Apocalypse, puis je vais essayer de faire un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu à travers le cours. La lettre aux Hébreux. Donc, si vous voulez des copies des notes, je me demande si ce n'est pas juste la leçon 9 qui était disponible en arrière. Si vous voulez trouver la leçon 8, tout ça, vous pouvez le trouver sur notre site web dans la section des cours bibliques. Puis, vous pouvez aussi vous abonner à la liste d'envoi, vous allez recevoir ça. Quels sont les thèmes qu'on a vus, juste pour se remettre un peu dans le bain? Quels sont les grands thèmes? OK, commençons avec ça. C'est quoi les grands thèmes qui résument l'adoration dans l'Ancien Testament, puis que je répète depuis le début du cours dans le Nouveau Testament? Camille?
Révélation.
Oui, révélation. Rachat.
Alliance.
Service. Exactement, quatre grands thèmes. OK? Puis on garde ces quatre grands thèmes-là parce qu'on se rend compte que finalement, c'est non seulement une bonne synthèse dans l'Ancien Testament, c'est une bonne synthèse dans le Nouveau Testament. Donc, nous adorons un Dieu qui se révèle. C'est une particularité de l'adoration du Dieu de la Bible. C'est différent de ce qu'on va trouver dans toutes sortes de cultes, dans toutes sortes de pensées, de philosophies. Nous adorons un Dieu qui se fait connaître à nous. Ce Dieu-là se rachète des adorateurs. C'est lui qui va créer son peuple d'adorateurs en les sauvant. C'est vrai dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un rachat qu'il va opérer. Ensuite de ça, on a dit qu'il va traiter une alliance avec ses adorateurs. D'accord? Donc, c'est comme si on sort de l'idée du Créateur, Dieu notre Créateur dans les Écritures, mais des grands thèmes qu'on voit à travers toute la Bible, ça se résumerait à ces quatre-là plutôt. D'accord? Donc, on a dit révélation, rachat, alliance. Il dicte les conditions de l'alliance qu'on va contracter avec lui comme adorateur. On n'adore pas Dieu comme on veut. Non seulement on adore pour qui il est comme il s'est révélé, mais on va contracter une alliance avec lui. On va entrer dans une alliance avec lui. Et puis ensuite de ça, l'adoration va se résumer énormément au service. Énormément au service. On est en train de servir ce Dieu-là. Que ce soit par la louange, que ce donc des louanges dans nos paroles, des chants de louanges, que ce soit en écoutant des enseignements, que ce soit le service dans le temple dans l'Ancien Testament, que ce soit lorsqu'on est en train de prendre soin de la famille, on est en train d'aider des indigents, des gens qui sont dans la pauvreté, on est toujours en train de servir Dieu. C'est un service, l'adoration, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc, la tribu des Lévites servait Dieu particulièrement autour du temple. Mais l'ensemble d'Israël servait Dieu, c'était des serviteurs de Dieu. Puis lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on se rend compte que ce thème-là demeure encore. Donc, on a quatre mots pour résumer l'adoration, si on peut dire, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ou c'est assez clair? Puis plusieurs de ces éléments-là sont différents de ce qu'on va trouver dans d'autres religions, dans d'autres croyances. D'accord? La notion de révélation, ce n'est pas dans toutes les religions. La notion de rachat, définitivement pas. D'accord? L'idée d'alliance, peut-être qu'on le trouve dans certaines religions anciennes. Okay? Et puis ensuite de ça, le service, bien évidemment, là, il y en a plusieurs qui vont voir ça comme un service. Mais de voir nous, non seulement... Fait que la particularité qu'on trouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est que les adorateurs de l'Ancien Testament ne servent pas Dieu seulement à l'autel de leur Dieu. Ils servent Dieu par tout leur style de vie. Alors, si moi j'avais été un adorateur d'une idole païenne quelconque, je serais en train de servir mon Dieu fondamentalement en servant mon idole. Lorsque je vais à l'autel puis j'offre des sacrifices là, des encens, n'importe quoi, je suis en train de servir mon Dieu. Mais dans toute la Bible, être un adorateur de Dieu, c'est adopter un style de vie qui, à chaque moment de ma manière de vivre, mon style de vie que je vais adopter, je suis en train d'offrir un service d'adoration à mon Dieu. Donc, Israël devait faire ça. Puis, c'est pour ça que Dieu va contester, Dieu va rejeter, va critiquer, va juger l'adoration d'Israël dans l'Ancien Testament, parce que leur style de vie, leur manière de se comporter les uns envers les autres, par exemple, est en contradiction avec ce qu'ils disent avoir dans leur cœur lorsqu'ils vont offrir des sacrifices au temple. D'accord? Et parce qu'il y a une contradiction, Dieu va dire, votre adoration me pue au nez. Ce n'est pas admissible pour moi, ce n'est pas acceptable. C'est une particularité de ce que c'est un adorateur dans la Bible. Et ça demeure dans le Nouveau Testament. Quelqu'un qui voudrait nous dire un autre élément qu'on avait vu au début du cours, puis dans le fond, on commence la révision pour la semaine prochaine, pour la conclusion. Un autre élément qu'on avait vu au début du cours, c'est la notion de continuité puis de discontinuité. Il y a des choses qui sont présentes dans l'Ancien Testament, déposées, développées progressivement dans l'Ancien Testament, et qui vont se poursuivre même jusque dans l'éternité. Donc, ils vont se poursuivre de l'Ancien au Nouveau Testament, jusque dans l'éternité, et il y a des éléments qui vont avoir une discontinuité, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter à un certain moment. Quelqu'un qui voudrait nous développer ça un peu ou nous expliquer ça. Camille peut sûrement le faire, mais sûrement quelqu'un d'autre aussi qui peut le faire. Excuse-moi, Camille. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut juste nous partager un peu c'est quoi l'idée de continuité, discontinuité? M. Marquis aussi peut le faire, je suis sûr, mais sûrement quelqu'un d'autre aussi qui peut le faire. Est-ce quelqu'un qui veut s'essayer? Non? Mr. Marcus, veux-tu nous éclairer, s'il te plaît? Junior, excusez, il fallait spécifier.
Je n'ai pas le vocabulaire que vous avez développé dans le cours, mais...
Mais tu devines l'idée?
C'est ça. Au niveau de la continuité, évidemment, je pense qu'on distingue certains commandements que Dieu a donné dès le départ, que ce soit même avant, de présent même avant la loi de Moïse, de l'aimer Dieu de tout son cœur, de le servir. Ça, c'est présent, ça continue même.
Absolument.
Mm-hmm. Lorsqu'on voit l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, tout le rapport, la relation avec Dieu qu'il y a dans le culte, d'offrir les sacrifices, aller dans la présence de Dieu, par le tabernacle ou à travers le temple, ça continue, mais d'une manière nouvelle, ça devient c'est discontinué, cette manière d'offrir ce culte à cause de ce que Christ a accompli. que maintenant on est en relation avec Dieu, on a son esprit qui habite en nous, on devient le temple de Dieu. Donc je pense que au niveau de l'adoration, ben, ça, ça joue pour beaucoup. Si on n'est plus à un endroit pour adorer, on adore Dieu. En esprit, en vérité, ça peut être à n'importe quel endroit parce qu'on est le temple de Dieu.
Excellent. Oui. Oui, excellent. Donc, pourquoi est-ce que je voulais qu'on aille là? C'est parce que lorsqu'on arrive à la lettre aux Hébreux, ben, on a comme la lettre par excellence pour montrer ce qui va se continuer puis ce qui va radicalement être transformé. Parce que un des éléments centraux, sinon l'élément central de la lettre aux Hébreux, c'est tout ce qui est accompli en Jésus-Christ. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui se transforme avec la venue de Christ. On va continuer à s'approcher de Dieu sur la base de sa révélation. On va continuer à avoir besoin d'être racheté pour devenir des adorateurs de Dieu. On va entrer dans une alliance, mais une alliance plus excellente. Une alliance plus grande encore que celle de Moïse. Et puis, on va continuer à être au service de Dieu. D'accord? Maintenant, comme énormément est accompli en Jésus-Christ, ben là, il y a quelque chose qui change de fondamental. Puis avant d'aller un petit peu plus loin dans la lettre aux Hébreux, je veux juste souligner quelque chose qu'on a vu évoluer jusqu'à présent dans le cours. C'est la notion de parce qu'on va le développer un petit peu ce matin, c'est ce lieu où l'on s'approche de Dieu. D'accord? La Bible commence, puis Dieu est présent avec Adam et Ève tout le temps. Le lieu, c'est le jardin, c'est là où ils habitent, il est constamment avec eux. La communion est constante. Le péché arrive. La communion est brisée. Maintenant, Adam et Ève, ou les hommes, vont devoir aller vers Dieu et Dieu venir vers eux. Avant, ils habitaient dans la présence de Dieu. Dieu venait avec eux tous les jours. Ils étaient constamment en communion. Il n'y avait pas de séparation. Le péché intervient. Maintenant, il faut s'approcher de Dieu. Il faut que Dieu s'approche de nous. Et ça, cette notion-là de s'approcher va demeurer jusqu'à ce qu'on soit réunis avec Christ pour l'éternité. D'accord? Fait que même dans la lettre aux Hébreux, on voit cette idée-là. Donc, il y a quelque chose avec la chute qui fait qu'il y a une distance. Et à partir de ce moment-là, un des éléments qui va évoluer à travers toute la Bible, c'est où ce lieu-là où on s'approche de Dieu? C'est où cet endroit-là où on s'approche de Dieu? Bon, ben, dans l'Ancien Testament, il y avait des moments où Dieu se révélait. Dieu se faisait connaître. Puis, fait qu'ils élevaient un autel, un mémorial lorsque Dieu était apparu. Puis ensuite de ça, Moïse va venir, puis Moïse va dire, à travers Moïse, Dieu va faire connaître à son peuple. Il dit, maintenant que je contracte une alliance avec vous, je vais vous donner un lieu qui va être au milieu de vous, et vous allez constamment pouvoir venir ici me rencontrer, avec le tabernacle, puis ensuite de ça, avec le temple. D'accord? Puis là, j'arrive dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence, puis Jésus va dire qu'il est lui-même le temple. Il va se révéler comme étant lui-même ce lieu où on va rencontrer Dieu. Puis cette notion-là, parce que tout ce qu'il y avait dans le temple est accompli parfaitement en Jésus-Christ, on va le développer un petit peu, mais cette notion-là de temple, elle aussi, elle va continuer à évoluer dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a Jésus qui vient et dit « c'est moi le temple ». Mais après ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire… Dans les Épîtres, on voit que l'Église devient elle-même cet édifice, cette maison de Dieu. On a déjà, à travers les lettres, on a une idée de ce qu'on va voir un petit peu plus dans l'Apocalypse, où le peuple de Dieu, puis la Jérusalem céleste, puis l'Église, c'est très, très difficile à séparer à la fin de l'Apocalypse, d'accord? Donc, cet édifice, cette maison de Dieu, ça va être l'Église et un autre élément, ça va être chaque individu qui est habité de l'Esprit-Saint, qui est lui-même le temple. D'accord? Mon corps est lui-même un temple pour Dieu. Où est-ce que l'Esprit-Saint est? Donc, le temple, le lieu où l'on rencontre Dieu, c'est l'endroit où l'Esprit de Dieu se trouve, où Dieu se fait connaître. Puis ça évolue à travers l'ensemble de la Bible. On commence avec un lieu qui est le Jardin d'Éden. Il y a une communion parfaite qui est là. Il y a une coupure dramatique avec le péché. À partir de là, on doit s'approcher de Dieu, puis Dieu va s'approcher de nous, Dieu va venir vers nous, on va s'approcher de lui. Il y a vraiment une rencontre qui se passe. Ce lieu de rencontre-là, il va évoluer jusqu'à temps qu'on ait la révélation dans la personne de Christ. Puis lorsque je crois en Jésus-Christ, son esprit vient en moi. Puis maintenant, je peux être en communion constante avec lui. D'accord? Puis je pense que l'idée de venir à lui demeure enfin jusqu'à ce qu'on soit réunis avec lui pour l'éternité, parce que constamment, je dois examiner s'il y a quelque chose que j'ai fait qui a pu attrister l'esprit, que je veux rétablir une communion avec lui. Je pense à 1 Jean, d'accord? Donc, il y a encore cette notion-là de dire, est-ce que je suis en train de marcher dans la plénitude de l'Esprit? Est-ce que j'ai attristé l'Esprit Saint? Est-ce que je me suis éloigné du Dieu qui est en moi, quelque part? Puis, est-ce que je dois revenir vers lui? D'accord? Donc, il va rester ça parce qu'il y a un combat avec le vieil homme jusqu'à la fin. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou des commentaires? Ça va? Est-ce que c'est clair ou vous ne dites rien parce que c'est pas clair pendant tout? Monsieur Latour, c'est clair. Ça va? C'est assez clair? OK. Hein, vous comprenez que lorsqu'on annonce Jésus, je peux pas, puis je parle avec quelqu'un qui a une autre croyance, je peux pas accepter du tout l'idée qu'ils me disent « Oh, mais on croit toutes la même affaire. » Puis ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la grâce qu'on a en Jésus-Christ. On est complètement ailleurs, on est dans un autre monde. OK. Déjà le Dieu qui se révèle. C'est tout à fait vrai. Maintenant, j'avais en tête aussi l'islam, où c'est le Dieu qui se révèle. Hein, dans l'islam, pour eux, c'est le Dieu qui se révèle. Donc, ça, c'est pour ça qu'eux autres, ils vont dire que c'est la religion, c'est les religions du livre, puis que c'est tout le même livre. Mais je veux dire, lorsque tu regardes la communion puis l'intimité qui est annoncée dans le Coran avec Dieu, puis ce qui est annoncé en Jésus-Christ, c'est deux univers complètement parallèles puis contradictoires. Il n'y a rien qui se complète dans cette histoire-là. C'est juste qu'il y en a un qui a attrapé des éléments du christianisme puis qui a essayé de rendre quelque chose ici, mais il a perdu l'essence même. Mahomet, en pensant s'inspirer du christianisme, a perdu l'essence même du christianisme. Cette communion qu'on a avec ce Dieu qui vient faire sa demeure en nous, ce lieu permanent de rencontre qu'on a avec lui. D'accord? C'est inconcevable pour l'islam qu'il y ait une telle intimité entre des êtres humains et Dieu. Ça rentre pas, là. Tu ne peux pas trouver cette notion-là dans le Coran du tout. OK, alors on s'en va dans Hébreux, puis on a mis la table pour plusieurs éléments de la lettre aux Hébreux. On a déjà commencé la semaine dernière la lettre aux Hébreux, fait que je ne veux pas tout revoir la page 2 de vos notes, mais juste revoir un ou deux éléments. Une des choses qui ressort très très fort dès le début de la lettre, c'est que Christ est la révélation ultime de la personne de Dieu. Donc, dans mes quatre thèmes qui résument la révélation, Christ est la révélation ultime de la personne de Dieu. Connaître Christ, c'est connaître Dieu. Ne pas connaître Christ, c'est passer à côté de la plus grande opportunité qui est donnée à l'homme pour connaître Dieu. D'accord? Donc, dans la lettre, on va jusqu'à saisir la divinité de Christ. Mais l'argument fondamentalement qui est fait à l'intérieur de la lettre, c'est que Christ est la révélation de Dieu. Je vais connaître la personne de Dieu à travers ce que Christ me fait connaître. Il est l'empreinte de sa personne. Je peux donc saisir qui est Dieu à travers la personne de Christ. Ça, c'est vraiment la notion de révélation qui est là. Ensuite de ça, il y a l'idée qu'il apporte une alliance supérieure, une alliance nouvelle. Une alliance qui amène une discontinuité. La discontinuité, c'est quoi? C'est qu'il n'y aura plus de sacrifice à faire pour nous laver de nos souillures. Donc, c'est pour ça qu'on dit, lorsque je viens à la foi en Jésus-Christ, je suis pardonné de mes péchés passés, présents et à venir. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas attrister l'esprit. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas à me repentir. Au contraire, j'ai à me repentir pratiquement quotidiennement. Parce que je lutte avec le vieil homme, parce que je suis en processus pour que le caractère de Christ soit formé en moi. Mais il n'y a plus de sacrifice à faire pour le pardon de mes péchés. Comme je le disais cette semaine dans la question du nouveau catéchisme qu'on va envoyer lundi, il y avait toute cette idée-là de dire, est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce que Christ a fait? Est-ce que j'ai des œuvres que je pourrais ajouter à ça? Il n'y a pas de sacrifice qu'on peut ajouter à ce que Christ a fait. C'est entièrement accompli. Donc, il n'y a plus de sacrifice à faire pour le pardon de nos souillures, de nos péchés, de nos offenses. Et lorsque je décide de placer ma foi en Christ, je ne pourrais pas offrir un autre sacrifice pour le pardon de mes péchés. Lorsque je vais me repentir, ce que je veux faire, c'est être sensible à toute offense que j'aurais faite à l'Esprit de Dieu, à Dieu, à l'Esprit de Christ. Je veux m'assurer de marcher dans la plénitude de l'Esprit. Et donc, c'est dans cette idée-là que je vais me repentir de mes péchés comme chrétien. Mais clairement, la lettre aux Hébreux me dit que le sang de Christ, je suis au bas de la page 2, le sang de Christ met un terme au cycle de souillure et de purification de l'ancien système. Sous la nouvelle alliance, celui qui a été purifié et consacré définitivement au service de Dieu. C'est toute la promesse qui était faite dans l'Ancien Testament d'une nouvelle alliance. Maintenant, j'avais commencé à aborder l'idée qu'on trouve au bas de la page 2, c'est cet hommage qui est rendu au Fils de Dieu dans la lettre aux Hébreux. L'hommage que les anges vont rendre au Fils de Dieu, à Jésus-Christ. On lit dans Hébreux 5, versets 5 à 9, « Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui? » Donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, « Christ est à part des anges, il est supérieur aux anges. » Et il va faire un point de comparaison, il dit, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui? » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Maintenant, c'est un dilemme parce qu'on adore Dieu seul, voyez-vous? Puis pourtant, les anges sont invités, il leur est commandé d'adorer le Fils. De plus, il dit des anges, « Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Et donc, qu'est-ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de faire? Il est en train de citer des passages de l'Ancien Testament pour démontrer que c'était annoncé, c'était prophétisé dans l'Ancien Testament, qu'un jour le Fils de Dieu viendrait, qui serait incomparable aux anges de Dieu, il serait en tout supérieur aux anges, et on devrait lui rendre hommage, on devrait l'adorer. Implicitement, l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de nous dire qu'on devrait adorer Christ. D'accord? Implicitement, c'est ça qu'il est en train de faire. Si les anges sont appelés à l'adorer, qu'en est-il des hommes? On est appelé à l'adorer aussi. Il est la révélation parfaite du Fils de Dieu lui-même. Donc, la doctrine de la divinité de Christ, la notion, l'idée que Christ est Dieu, ce n'est pas une doctrine secondaire. C'est une doctrine fondamentale, d'accord? Et des fois, si vous avez des conversations avec des gens, puis les personnes vous disent, « Oui, mais c'est pas comme les textes sont pas toujours clairs. » C'est vrai, c'est une révélation progressive, la Bible. Progressivement, à travers les Écritures, des vérités me sont révélées. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours clair, mais ce n'est pas une doctrine secondaire. Je ne veux pas appeler frère dans la foi quelqu'un qui ne reconnaît pas la divinité de Christ. Je ne vais pas le faire. Ce n'est pas pour lui porter offense. C'est qu'on n'est pas en communion avec le même Dieu. Je ne suis pas en communion avec le même Dieu que celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu le Fils. Lui est en communion avec un autre Dieu qui n'est pas le mien. Est-ce que ça va, ça? Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur ça? C'est important, il faut que je sois en mesure de le défendre, il faut que je sois en mesure de l'exposer, il faut que je sois en mesure de répondre à des questions. On est à une époque où les gens prennent offense, dès qu'on a des facteurs, dès qu'on a des positions qui apparaissent divisives, puis je crois qu'il y a plein de chrétiens qui, dans leur cœur, vont croire que Jésus-Christ est Dieu, puis qui vont être mous lorsque ça va être le temps de dire « mais on n'adore pas le même Dieu, toi puis moi ». Si vous dites à un musulman, toi puis moi, on adore le même Dieu, je suis désolé, les amis, vous êtes gravement dans l'erreur. J'adore pas le même Dieu que les musulmans. Pas du tout. Pas du tout. Le Dieu des musulmans estime, la théologie des musulmans déclare que les choses les plus fondamentales de la Bible sont des blasphèmes. D'accord? Donc, on n'est pas en relation avec le même Dieu. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Christ est la révélation de la personne de Dieu. Puis, un de nous deux a un Dieu imaginaire. Bon, les athées diraient « nous deux ». Mais moi, je dirais qu'un de nous deux a un Dieu imaginaire qui est inspiré par une doctrine démoniaque, qui vient du diable, qui nous éloigne de Christ. D'accord?
Je suis en train de penser à un groupe comme les témoins de Jéhovah. C'est presque la même chose. C'est juste peut-être ce point où Jésus est Dieu qui fait la différence. Amen.
Alors, la question, c'est les témoins de Jéhovah qui font des nuances sur la personne de Jésus-Christ, essentiellement. Bien, ils font d'autres différences qui sont importantes, mais effectivement, ils le font sur la personne de Christ, d'accord? Et juste pour ce point-là, je ne pourrais pas être en communion avec eux comme avec des frères et sœurs, parce qu'ils ne reconnaissent pas du tout la divinité de Christ. Maintenant, ils font offense aussi à la personne de l'Esprit-Saint, parce qu'il n'est pas une personne, d'accord? Donc, tant qu'à moi, ils offensent toute la Sainte Trinité, parce qu'ils ne croient pas à la Trinité non plus. Donc, nous croyons au Dieu qui se révèle, qui se fait connaître à nous, et j'ai pas le loisir, je vais le dire comme ça, une faute fondamentale de l'approche herméneutique, l'interprétation de la Bible des témoins de Jéhovah, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent arriver avec des explications logiques pour tous les textes des Écritures, et ils refusent de vivre avec certaines tensions, certains mystères. C'est une des difficultés qu'on a lorsqu'on a des conversations avec des musulmans aussi. D'accord? Lorsque c'est une bonne question, je vais essayer de ne pas partir trop loin là-dessus, là, puis qu'on complète Hébreu. Mais lorsqu'on dit que les Juifs, les chrétiens, on adore le Dieu qui se révèle à travers la Bible, bien, c'est Dieu qui est en train de se révéler, puis Dieu est beaucoup plus grand que ma capacité de comprendre. Et donc, il y a des sujets qui sont extrêmement clairs dans la Bible. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Lorsque j'arrive sur la doctrine de la Trinité, la notion qu'il y a trois personnes en Dieu, c'est quelque chose qui est au-delà de ma capacité de compréhension. Et peut-être que ça pourrait être parfaitement limpide pour nous. Certainement, lorsqu'on va voir Dieu, ça va l'être pas mal plus. Mais peut-être que ça pourrait être parfaitement limpide. Mais dans les Écritures, la doctrine est là, elle est clairement là, mais je n'ai pas l'information qui me permet de rendre tout ça entièrement compréhensible à ma capacité d'analyse à moi. Si vous m'expliquez la mécanique d'une voiture, qui n'est vraiment pas mon domaine, si vous êtes assez patient, là, je vais vraiment comprendre la mécanique d'une voiture. Mais même si vous étiez super patient, je n'arriverai pas à comprendre parfaitement la Trinité. Parce que, au moins parce que Dieu n'a pas décidé de la révéler entièrement, la Trinité. Les témoins de Jéhovah font une erreur importante que les musulmans font aussi. C'est pour ça que lorsqu'on discute avec eux, ils vont dire « c'est pas logique, ça se tient pas ». C'est pas parce qu'il y a une part de mystère que ce n'est pas logique. C'est pas parce que tu n'arrives pas à saisir quelque chose que ça se tient pas. C'est qu'il y a une part de mystère dans les Écritures. Les témoins de Jéhovah abordent les Écritures en disant « non, il n'y a pas de mystère. Nous, on peut tout expliquer parfaitement ». Là, ils arrivent puis ils doivent construire un système qui va faire qu'ils vont être capables de placer toutes les pièces du puzzle. Il n'y aura plus de mystère dans la Bible. C'est tellement faux qu'ils passent leur temps à changer leur révélation. Leur interprétation des textes bibliques évolue de décennie en décennie chez les témoins de Jéhovah. Ils ont leurs spécialistes qui reçoivent des révélations angéliques, puis ils corrigent leur interprétation des textes. Donc, c'est juste pour dire qu'eux-mêmes ne sont pas consistants là-dedans. Là. Mais c'est l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent tout expliquer. Ils ne peuvent pas expliquer comme il faut la divinité de Christ. Ils ne peuvent pas expliquer la Trinité. Ils rejettent ces choses-là. Maintenant, ils font des erreurs sévères aussi au niveau du salut. Parce que leur système de croyance revient à un salut par les œuvres. Le sacrifice de Christ n'est définitivement pas suffisant. Et dans ce sens-là, ils sont assez près de l'Église catholique, qui enseigne aussi que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Il faut compléter. Et ils vont interpréter des passages lorsque Paul dit qu'il va compléter ce qui manque à l'œuvre de Christ. L'Église catholique va définir ça comme un travail d'expiation que je suis en train de faire. Je ne peux pas ajouter d'expiation, je ne peux pas expier, je ne peux pas payer. Il n'y a pas d'élément de rédemption dans l'œuvre que moi je suis en train de faire. Mais pour les témoins de Jéhovah, comme pour l'Église catholique, ils participent à leur salut, non seulement par reconnaissance pour ce que Christ a fait, mais pour gagner leur salut. Est-ce que ça va?
Oui, ça va, mais la seule chose qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que ça revient à une question d'interprétation. Et je sais aussi que pour les interprétations, nous n'avons pas une seule interprétation. Même dans le groupe baptiste, il y en a qui interprètent autrement des textes que vous autres. Et si cela se revient, cela se ramène à une question d'interprétation, est-ce qu'on peut prétendre aller au-delà jusqu'à dire qu'ils ne sont vraiment pas nos frères?
Bonne question. Bonne question. Alors, la question qui est posée, c'est que, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est une question d'interprétation des Écritures. Et donc, est-ce qu'on peut trancher puis dire que ce n'est pas des frères? Bien, alors, premièrement, oui, c'est une question d'interprétation. Tout est question d'interprétation. Le fait que moi, je suis... en fait, tout ce que vous voyez, vous êtes en train de l'interpréter. Vous regardez la salle ici, puis pour certaines personnes, ce serait juste une salle communautaire, puis pour d'autres personnes, c'est une salle où on vient adorer Dieu. C'est une question d'interprétation. Maintenant, puisqu'elle est la propriété de l'Église de l'Espoir, puisqu'on chante des louanges ici, je pense que c'est une salle où on vient adorer Dieu. Puis je pense que j'interprète bien les choses en disant ça, mais c'est une question d'interprétation. Donc, c'est vrai, c'est une question d'interprétation. Maintenant, les chrétiens, depuis 2000 ans, s'entendent sur l'interprétation. Depuis quelques décennies, une secte est née qui a emboîté le pas d'autres sectes qui étaient là au début de l'histoire de l'Église, qui remettent en question la divinité de Christ, qui questionnent la divinité de Christ. Je vais le dire comme ceci, là. Les témoins de Jéhovah, comme l'islam, sont des sectes chrétiennes qui sont sorties des rangs du christianisme et de la révélation biblique. L'islam est une secte qui découle de maintenant, on ne l'appellera pas une secte parce qu'ils sont tellement nombreux et c'est tellement gros, mais c'est la même idée. C'est la même idée. C'est qu'on a la révélation dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Bon, les Juifs diraient qu'on est une secte juive, d'accord? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, j'ai la Bible qui est là, elle est complète. Les musulmans ont ajouté un troisième livre qui vient, selon eux, éclairer la révélation qui avait déjà été reçue. Mais puisqu'ils savent que leur Coran est constamment en contradiction avec l'Ancien et le Nouveau Testament, ils vont dire, bien, c'est juste que vous n'avez plus les bonnes versions. Nous, le Coran reflète la vraie version que vous avez corrompue. Fait qu'on ne l'a pas, fait que c'est nous. Mais en réalité, c'est qu'ils ont une nouvelle révélation. D'accord? C'est la même chose avec les Mormons, ils ont une nouvelle révélation. C'est la même chose avec les témoins de Jéhovah. Ils ont des nouvelles révélations. Et donc, comment est-ce que je vais discerner une secte? C'est qu'ils vont avoir non seulement une nouvelle interprétation, mais ils vont avoir une nouvelle révélation qui permet d'interpréter. Et donc, les témoins de Jéhovah, leur interprétation est autoritaire. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas témoin de Jéhovah. Dans leur vision des choses, tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas témoin de Jéhovah. Une des choses les plus confondantes, et là on est vraiment en train de s'en aller ailleurs, une des choses vraiment confondantes lorsqu'on discute avec un témoin de Jéhovah, c'est lorsqu'il vient à la porte, je m'en vais dans un Jean, je discute avec lui, puis je dis, regarde, si tu as le Fils, tu as la vérité, c'est ça que le texte me dit, oui, mais moi j'ai le Fils, je crois en lui, donc je suis sauvé. Là, ils sont mal pris parce que moi je suis un évangélique baptiste, je ne suis pas un témoin de Jéhovah, je ne peux pas être sauvé. D'accord? Donc, c'est ça, c'est une secte qui a une révélation qui s'ajoute. De manière, cette révélation-là, il ne le réalise pas, mais vient contredire les Écritures. Une des manières assez simples de démontrer qu'elle vient contredire les Écritures, c'est de simplement cumuler les interprétations qu'eux autres ont faites de ce texte-là dans les quelques dernières décennies. Puis on va voir qu'ils passent leur temps à rééditer, à transformer leur traduction de la Bible pour justifier leur compréhension. Puis leur compréhension évolue, elle change. Et donc, c'est une question d'interprétation, mais cette secte-là est en contradiction avec 2000 ans de christianisme. Et c'est pour ça qu'on va parler... Fait que maintenant, je vais répondre juste à un élément que tu as mentionné, Coucou, c'est... Oui, mais il y a des questions d'interprétation ou des divergences d'interprétation aussi entre chrétiens. D'accord? Ce qui est tout à fait vrai. Tu vas dans une autre église évangélique qui va avoir d'autres positions sur d'autres questions. Quand est-ce que je vais dire, voici mon frère, voici celui que je ne peux pas appeler mon frère? C'est lorsqu'on on a des divergences sur des doctrines essentielles. Et c'est pour ça qu'on va faire une distinction fonctionnelle, je pourrais dire, pour garder la bonne relation. Je vais faire une distinction entre les doctrines essentielles et les doctrines non essentielles. Celles qui sont essentielles ont été reconnues à travers 2000 ans d'histoire de l'Église comme des doctrines essentielles clairement révélées dans les Écritures. Maintenant, si tu es à 1000, si tu es près 1000, on ne va pas le définir comme une doctrine essentielle. Si tu es calviniste comme moi ou tu l'es moins, on ne va pas le définir nécessairement comme une doctrine essentielle non plus. D'accord? Mais si tu me dis que Jésus est simplement un homme, peut-être un très grand homme, mais ce n'est pas Dieu le Fils, depuis 2000 ans d'histoire, l'Église a déterminé ça. Et très tôt dans son histoire, dans les premiers siècles, les témoins de Jéhovah ont fait, ils ont réveillé une vieille doctrine arienne, une vieille hérésie arienne, puis ils ont adopté ça. Je ne sais pas si ça éclaire un petit peu, Coco. Alex, tu m'écoutes depuis tantôt, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Oui.
Puis, lorsque ça s'écarte après ce que l'Écriture enseigne, oui, il y a toute une question d'interprétation, mais comme tu dis, il y a l'histoire de l'Église. L'Église a défendu les textes bibliques, la révélation qui est claire. Lorsqu'on voit Paul et Jean adresser la question des faux docteurs, c'est pas des frères, ils étaient au milieu de nous, mais ils ne sont pas de nous. Fait qu'il y a une question d'une différence.
Effectivement, il faut trancher. Mais ce n'est pas juste selon toi, c'est depuis 2000 ans d'histoire. Toi et 2000 ans d'histoire de l'Église. Merci. Fait que c'est un élément de plus là, qu'Alex ajoute que je n'avais pas mentionné. Les Écritures nous appellent à user de discernement puis de reconnaître certains comme des faux docteurs. Et donc, si je dois reconnaître certains comme des faux docteurs, c'est qu'il y a une fausse doctrine qui est enseignée. Il y a une hérésie. Il ne nous serait pas commandé d'user de discernement si on ne devait pas trancher ça. D'accord? Oui?
Est-ce que je peux dire un petit commentaire? Je sais que je suis pas dans
Oui.
Adaptant à la parole de Dieu, mais en détournant finalement la vérité pour le mensonge et en ne revenant jamais en arrière,
oui.
Amène le troupeau de Dieu avec eux dans le mensonge et dans la perte de
oui. Mais définitivement, puis c'est pour ça que je parle de secte chrétienne, c'est parce que ils sont sortis des rangs des chrétiens, là. Puis l'Église mormone aussi, donc, moi, ce que je vous dis, c'est quand vous voyez que l'Église évangélique en général déclare un mouvement, admettons, comme les Adventistes des Septième Jour, puis on dit, non, il y a des hérésies dans ce qui est enseigné. Il y a des choses qui sont hérétiques. D'accord? Ayez l'humilité d'étudier sérieusement ce que ces mouvements-là enseignent. D'accord? Ne présumez pas que vos pasteurs sont un peu trop bornés, OK? Parce que l'Église s'est battue pour avoir un enseignement clair et biblique pendant 2000 ans d'histoire. C'est pas des questions prises à la légère. Et donc, on vit à une époque où il faut être all-inclusive, il faut accueillir tout le monde, puis on croit tous la même affaire. On croit pas tous la même affaire. Puis là, on est rendu à un niveau de confusion. J'écoutais encore un truc ce matin. On est rendu à un niveau de confusion où même la biologie, c'est une question d'interprétation. Je suis peut-être pas un homme, je suis peut-être une femme, c'est une question d'interprétation, tout ça. Fait qu'on est même rendu où la science physique ne peut même plus dire quelque chose de vrai. T'sais. Non, tout n'est pas interprétation. Là. C'est pas vrai. Là. Il y a des choses qui sont objectivement définissables, et donc il y a des choses qui sont objectivement déclarées dans la Bible. Puis, même s'il y a un moment où je vais devoir dire, j'aimais beaucoup l'image je pense que c'est C.J. Mahoney qui avait utilisé ça, il l'avait emprunté à quelqu'un d'autre, il disait, en théologie, il y a un moment où tu avances, c'est solide, tout est clair. Mais c'est comme si j'avançais dans la mer. Puis ceux qui sont déjà allés se baigner dans la mer, il y a un moment où tu commences à sentir que de temps en temps, comme les vagues font que tu ne touches plus tout à fait au fond. Tu sais. Puis là, à un moment donné, tu commences à marcher sur la pointe des pieds. Peut-être c'est ça, juste de reculer un petit peu et de dire, OK, ici c'est solide, là je suis dans le mystère. Là, j'arrive dans une portion de mystère. Beaucoup d'humilité face au mystère biblique. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer que je ne pourrais pas l'affirmer. C'est juste que je ne pourrais pas tout l'expliquer. Donc, la Sainte Trinité, je ne peux pas tout l'expliquer. C'est quand même assez facile à admettre comme idée, puisqu'on est en train de dire que mon petit cerveau devrait expliquer la personne de Dieu. Fait que je me dis, là, j'arrive en eau trouble, je vais reculer un petit peu. Je vais m'arrêter ici. La semaine prochaine, je vais prendre un 10 minutes au début juste pour rapper comme il faut, conclure Hébreu. En fait, on peut continuer 5 minutes. Je m'excuse, je pensais qu'il était moins 10. On revient dans Hébreu. Mais il y a des bonnes questions qui ont été posées. Fait que je veux juste vous encourager, il faut prendre le temps d'aller consolider ces choses-là, solidifier ces choses-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Alors, la lettre aux Hébreux, on l'a déjà abordée au début lorsque je faisais la révision, développe vraiment toute l'idée qu'on s'approche de Dieu. Et là, ce qui nous est révélé dans les lettres aux Hébreux, c'est qu'on s'approche de Dieu en venant à Christ. Christ est le lieu où on s'approche de Dieu. Christ est l'endroit, c'est la personne, mais c'est en lui qu'on vient s'approcher de Dieu et qu'on entre en relation avec lui. Et ça fait écho à nos 4 thèmes sur l'adoration dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Je vais tout de suite aborder comme le dernier élément, là, puis je verrai si je reviens dessus la semaine prochaine. Ce qui est clairement enseigné dans la lettre aux Hébreux, c'est que puisqu'il y a un élément de discontinuité, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, le sacrifice parfait est accompli, il n'y a plus de sacrifice à offrir pour nos souillures, la lettre aux Hébreux nous permet de comprendre mieux qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu une fois qu'on a été pardonné de nos péchés. Parce que l'idée de service à Dieu est très, très présente dans la lettre aux Hébreux. Mais on comprend que ça va être un service d'action de grâce, ça va être un service de reconnaissance. Ce n'est pas un service par lequel je vais pouvoir me purifier moi-même de mes fautes. Si vous allez au bas de la page 3, l'adoration, service de Dieu, en deux points clés du raisonnement de la lettre, le mot « la Triune » qui appartient au registre de l'adoration est employé de façon nouvelle pour mettre en relief ce que signifie être chrétien. Les sacrifices de l'ancienne alliance ne pouvaient amener à la perfection celui qui rend un tel culte, ni traiter le problème fondamental de la culpabilité. En revanche, la parfaite suffisance, excusez, il y a une erreur, du sacrifice de Christ en matière de pardon des péchés, rend cette purification possible. Le sang de Christ peut purifier notre conscience de la souillure du péché afin que nous puissions nous mettre au service du Dieu vivant. La conscience doit être purifiée par cette assurance. Le sang de Christ procure le pardon avant que nous puissions adorer et servir Dieu réellement. Et ensuite de ça, ce qui va être développé, c'est comment est-ce qu'on va servir Dieu? Comment est-ce qu'on entre au service de Dieu une fois qu'on a été purifié? C'est ça qui me qualifie pour pouvoir servir Dieu, c'est la purification qui m'a été apportée par Jésus-Christ. Si vous allez au haut de la page 4, l'adoration qui convient à Dieu est ici associée à la réception d'un royaume inébranlable. C'est que je sais que je suis entré dans un royaume duquel je ne pourrai plus être séparé, j'appartiens à ce royaume-là. Grâce à l'œuvre de Christ, les chrétiens ont déjà part par la foi au royaume eschatologique de Dieu. Le royaume eschatologique, c'est ce qui nous est annoncé. Lorsque Christ va revenir, on va être entièrement réunis avec lui, Par la foi, je fais déjà partie de ce royaume-là. L'Esprit de Dieu habite déjà en moi. Je suis déjà en communion avec Dieu. Parfaitement. Par la foi. En effet, ils se sont déjà approchés de la Jérusalem céleste. On va le voir plus la semaine prochaine. Où Dieu est entouré de ses anges et des justes de toutes les générations. À première vue, 12-28 semble suggérer, Hébreux 12-28, que l'adoration n'est qu'une expression de reconnaissance. N'est qu'une expression de reconnaissance. Montrons notre gratitude en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréé. Cependant, le chapitre suivant comporte de nombreuses exhortations à la fidélité et à l'obéissance. Pour l'auteur, l'adoration qui convient à Dieu consiste donc en des paroles et des actes qui découlent de ce sentiment de reconnaissance. Telle est certainement la signification d'Hébreux 13, versets 15 et 16. Je vais me garder juste un petit morceau pour la semaine prochaine que je veux développer quelque chose qui est très fort à la fin de la lettre aux Hébreux. C'est toute l'idée que tous les gestes du quotidien font partie de l'adoration. Puis en réalité, c'est comme si, à part de fixer les yeux sur Dieu et sur Christ, puis lui rendre grâce et l'adorer, notre adoration se résume fondamentalement à servir, à être l'expression de cet amour-là autour de nous. On va juste compléter ça au début du cours la semaine prochaine. On va couvrir la lettre de l'Apocalypse. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta sainte parole. Merci, Père, pour ta parole qui nous apprend qui tu es. Nous apprenons à te connaître, à t'adorer, Seigneur. Nous apprenons à discerner les Écritures ensemble, Père. Seigneur Jésus, nous voulons ce matin t'adorer parce que tu es la révélation même de la personne de Dieu. Tu es l'empreinte même de sa personne. L'apôtre Jean nous dit que tu es le Logos. Tu es la parole par qui toutes choses ont été créées. Tu étais avec Dieu et tu es Dieu. Mais non seulement tu es notre Dieu, Seigneur Jésus, tu es notre souverain sacrificateur. Tu es venu t'offrir toi-même en sacrifice afin qu'il n'y ait plus de sacrifice nécessaire pour le pardon de mes péchés, Seigneur, de nos péchés. Et Seigneur, nous croyons en toi. Nous voulons ce matin t'adorer, te célébrer. On va passer un temps ensemble à chanter des louanges, à écouter le message de ta parole, Seigneur, à s'accueillir les uns les autres, à prier ensemble, à être attentifs aux besoins les uns des autres. Et Seigneur, nous voulons faire ça comme des actes d'adoration, parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir toute notre adoration. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. Amen.